l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, samedi 18 mars, je suis à Senlis, à la chapelle royale Saint-Frambourg. C'est tenu du 17 au 19 mars, un week-end d'ouverture de la chapelle, avec visite, répétition publique, concerts et conférences. À mes côtés, nous avons la présidente de la Fondation Cifra, Madame Cosima Cifra.
Bonjour monsieur.
Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler, nous décrire le lieu dans lequel nous sommes, cette très belle chapelle royale?
Alors nous sommes dans une chapelle royale, comme vous l'avez dit, dans laquelle Hugues Capet, le premier roi de la dynastie des Capétiens, a été acclamé. Saint-Frambourg a été érigé par son épouse la reine Adélaïde afin de réunir des reliques de Saint-Frambourg et célébrer ainsi, de par ses prières et de par les prières de la famille royale, son époux, roi de France.
À l'intérieur, on a une crypte, on a un musée qui est consacré à un pianiste aussi.
Alors à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, parce que la chapelle royale a été rachetée par Georges Cifra dans les années 1970. Lorsqu'il a poussé les portes la première fois, il a trouvé un garage dans cette chapelle. Un garage jonché de voitures, de sol et de murs tout noirs, jonché de pigeons et de chats abandonnés. Il a mûrement réfléchi, parce qu'il cherchait un lieu pour accueillir les jeunes musiciens de grands talents. Il s'est lancé. Il s'est lancé dans les années 70. Il a dit, je décide de racheter la chapelle, je vais la restaurer et je vais faire une scène pour aider les jeunes musiciens de grands talents.
On peut peut-être un peu présenter votre grand-père qui était un grand pianiste.
Alors Georges Cifra était un grand pianiste. Il est arrivé en France en 1956. Il a eu une vie très, très dure, très difficile avec ses parents et sa sœur en Hongrie à Budapest. Et donc quand il est arrivé là, il avait plus de force que jamais de par l'expérience et la vie de pauvreté dans laquelle il vivait. Cette force l'a aidé à prendre des décisions, à faire des choix toujours, toujours tournés vers la communauté, c'est-à-dire que la chapelle Saint-Frambourg, il l'a acquise par ses propres moyens pour la mettre à disposition des jeunes musiciens de talent et bien sûr à disposition des auditeurs. Et donc de là, lorsque Georges Cifra, lorsque cette histoire a été connue, donc déjà on connaissait très bien le maître du piano, mais alors quand le maître du piano se met à racheter une chapelle royale qu'il découvre ensuite, parce qu'on ne savait pas avant que c'était une chapelle royale, qu'il en fait une scène de premier choix et qu'il invite à ses récitals durant les premiers quarts d'heure un jeune musicien pour se faire connaître, la salle de la chapelle Saint-Frambourg est remplie. Et puis ça démarre. Et puis il y a des dons d'amis, de personnes exaltées, exaltées par cette force et cette décision d'engagement dans une vie. Donc ils apportent des cadeaux, on trouvera des œuvres d'art maintenant à la chapelle Saint-Frambourg, et puis il y avait de l'argent qui commençait également à arriver, parce que restauration oblige, une chapelle de cette taille il faut beaucoup de fonds, et donc mon grand-père ne pouvant accepter de l'argent comme cela, il a décidé de créer une fondation, et puis compte tenu de l'œuvre unique, cette fondation est devenue directement fondation reconnue d'utilité publique, et de là la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, a pu énormément apporter son soutien financier, son soutien au niveau de l'archéologie. Donc le tout combiné, c'est-à-dire les amis, les collectivités, Georges Cifra, Soleil Cassifra, son épouse, qui était passionnée par l'histoire, et dès le moment où elle a découvert cette histoire fabuleuse, elle n'a pas décroché de toute sa vie jusqu'à son dernier jour. Vous êtes à la chapelle royale Saint-Frambourg, c'est toute une histoire, c'est toute une vie, c'est plusieurs vies. Moi je suis la génération d'après, je fais la transmission, puis après moi il y aura aussi la suite de la transmission, je l'espère, mais je crois que dans la vie il y a des engagements. On doit prendre un engagement, on doit se lancer. C'est difficile de faire ce choix, c'est difficile d'avoir une œuvre comme celle-ci. C'est énormément de travail, mais énormément de satisfaction pour soi-même. Avoir le sentiment d'une œuvre et d'un travail au quotidien accompli pour la communauté, ça nous élève.
Là, actuellement, en 2017, comment se porte la fondation ?
Alors, vous avez dû, vous-même et les auditeurs, entendre parler du rachat de la chapelle Saint-Frambourg. Nous avons eu l'extrême chance, le miracle, j'ose parler d'un miracle, que M. Henri Herman dote la fondation pour lui permettre de racheter la chapelle Saint-Frambourg. Je ne pouvais pas envisager que la chapelle Saint-Frambourg appartienne à un autre propriétaire que la fondation Cifra. Aujourd'hui, grâce à M. Henri Herman, qui nous a quittés malheureusement le 5 novembre dernier, eh bien, il a fait sa dernière action de grande générosité a été d'aider la Fondation Sifra à racheter la chapelle. Donc au jour d'aujourd'hui, la Fondation Sifra est propriétaire. Nous avons rouvert les portes. Vous êtes aujourd'hui présent pour ce week-end d'ouverture. Nous avons décidé d'ouvrir un week-end par mois pour proposer concerts, répétitions, expositions, conférences historiques. Les projets musicaux pour la Fondation sont une chose, mais les projets historiques et archéologiques sont aussi une autre chose, parce que je souhaite dorénavant que les fouilles archéologiques puissent reprendre avec l'aide de la DRAC, que l'on puisse connaître enfin l'existence des deux sarcophages qui se trouvent dans la crypte de la chapelle Saint-Frambourg. Je suis persuadée que nous aurons des événements à venir de la plus haute importance. J'en suis profondément persuadée. Et je souhaite en avoir le cœur net et j'ai demandé à la Direction régionale des affaires culturelles de nous soutenir dans ce projet et de nous permettre de réouvrir le site de la crypte pour des fouilles archéologiques.
C'est vraiment dans l'état d'esprit de votre grand-père, l'ouverture, de partage qui va, j'espère, les années suivantes perdurer.
Je ne peux pas, moi, au jour d'aujourd'hui, l'envisager autrement. C'est beaucoup de travail, beaucoup de satisfaction, beaucoup de tristesse, de déception, et puis on remonte, et puis on a le courage qui est là. Là, il faut de la patience. Il faut de la persévérance.
On invite évidemment tous les auditeurs, maintenant que ça va ouvrir un petit peu plus, donc un week-end par mois.
Tout à fait, sauf exceptionnellement le mois d'avril. Par contre, nous avons dès à présent, dès aujourd'hui, lancé la chapelle en location. Oui. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, une entreprise qui souhaite faire une soirée pour ses employés, une entreprise qui souhaite inviter ses clients, une personne privée qui souhaite organiser un événement privé, peut à loisir contacter la Fondation Sifra pour louer la chapelle Saint-Frambourg. Quoi de plus agréable que de passer une soirée ou une après-midi en compagnie des vitraux de Juan Miró.
C'est très beau vitraux bleus qui illuminent la chapelle. Le prochain événement, il aura lieu quand ?
Alors, le prochain événement aura lieu durant le mois de mai, les 12, 13 et 14 mai. Et durant ces 3 jours, vous aurez l'ouverture de la chapelle à la visite le vendredi, avec un vernissage qui sera proposé par Michel Fromentin, qui est peintre senlisien. Le samedi soir, donc le 13 de mémoire, c'est un concert qui sera donné, un concert violon-piano. Et puis le dimanche, nous proposerons une conférence historique.
Nous sommes avec
Bernard Astoul. Je vais vous faire découvrir la crypte dans laquelle Adélaïde, la femme du Capet, a construit sa collégiale. La première chose qu'on a fait, on a creusé pour pouvoir obtenir suffisamment de place pour passer des gaines de ventilation et des gaines de chauffage. Et la première chose qu'on a trouvée, c'est une statue en pierre avec une crosse d'évêque. Et cette statue, c'était Saint-Frambourg. Et Saint-Frambourg, avec une canne d'évêque, ça nous a un peu étonnés. Et on a recherché au point de vue historique, on s'est aperçu que Saint-Frambourg était l'évêque de la ville au VIe siècle. On a installé Saint-Frambourg, que vous voyez là-bas, contre un sarcophage carolingien dans lequel Adélaïde, la femme du Capet, a mis les restes de Saint-Frambourg, sauf la tête qu'on a trouvée à Lasset dans le Maine. Et Saint-Frambourg était le porte-bonheur. Il était né en 500 et c'était un garçon très doué. Son père était riche, c'était un genre de premier ministre de Clovis. Il a fait placer le petit Saint-Frambourg auprès du fils de Clovis, Childéric, de façon à le faire rentrer dans la fonction publique. Mais lui, le jeune Frambaldus, il ne voulait pas du tout rentrer dans la fonction publique. Lui, ce qu'il voulait, c'était devenir un moine soldat. Et il s'est donc sauvé. Il s'est réfugié à Ivry, dans une caverne. Et là, la légende, brutalement, l'eau a monté pour le protéger de la vue de son père qu'il recherchait avec les soldats pour le ramener militari auprès de son patron. Donc, il s'est dissimulé. Saint-Frambourg est devenu l'évêque de la ville, mais l'évêque de la ville de Senlis, alors qu'il n'était pas évêque officiellement. C'est pour cette raison qu'il a cette canne d'évêque. À la suite de ça, vous avez un personnage central, c'est Gerbert d'Aurillac, qui était le premier pape de l'an 1000. Et Gerbert, on l'appelait le pape maudit, parce que lui, il voulait réunir la science et la foi. Il était devenu professeur à Reims. Il avait comme élève le duc Capet. Et le duc Capet, qui était un élève particulièrement doué, il l'a poussé, il lui dit il faut que vous deveniez roi. Et il a dit à sa femme, Adélaïde, vous allez construire une collégiale, ça va vous porter bonheur, et j'espère que votre mari va arriver sur le trône. Donc Adélaïde a fait sa collégiale, on a découvert ce pavage d'origine, où Hugues Capet a été acclamé, en revenant de Noyon après son couronnement. Voilà, vous avez ici ce sarcophage carolingien dans lequel il y avait les restes. Et ici, vous avez la tour romaine. Donc Madame Ziffrane a fait creuser dans cette partie-là, et pour atterrir, à l'intérieur de la chapelle que Louis VII a faite. Et on arrive ici où c'était rempli de terre. Donc ici, on a trouvé des ossements, on a trouvé des têtes, on a trouvé des tas de choses. Mais étant donné qu'il y a des courants telluriques extrêmement forts, on cherchait une source. Et on s'est aperçu qu'il y avait un escalier en creusant. Donc on a creusé. La première chose qu'on a fait, c'est creuser pour voir où était cette source. On n'a pas trouvé de source parce qu'on a trouvé, c'est un sarcophage. On a découvert délicatement le sarcophage et tous les habits se sont effondrés. Donc j'ai récupéré dans une enveloppe de ces habits qu'on a envoyé datant en Allemagne. Et les Allemands m'ont dit, c'est un personnage royal, ce sont des habits coptes de très grande richesse. Et c'est une reine. On considère que c'est Adélaïde, mais on n'en a pas la preuve formelle. Si on arrive à prouver que c'est Adélaïde, à ce moment-là, il y a Hugues Capet quelque part, parce que c'était un couple très fusionnel et ils entendaient très bien. Donc, à mon avis, son mari est enterré certainement après sur cette partie-là, on suppose.
Nous sommes avec les deux membres du duo Nitessence.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de votre duo, est-ce qu'on pourrait déjà vous présenter individuellement, s'il vous plaît ?
Je suis Marie-Laure Garnier, je suis chanteuse, soprano. J'ai donc été diplômée du Conservatoire de Paris. Depuis quelques années, je travaille en duo avec Célia.
Donc Célia Onetto Ben Saïd, 25 ans, pianiste, diplômée du Conservatoire de Paris, grande enthousiaste dans la vie, amoureuse des textes, amoureuse de la musique et amoureuse de mes partenaires. Et aujourd'hui, c'est Marie-Laure Garnier que j'accompagne depuis 5 ans. Pour ma plus grande joie.
C'est déjà une longue aventure toutes les deux.
Tout à fait.
Alors peut-être les circonstances, comment s'est créé ce duo ? Vous étiez lauréate du concours de la Fondation Stifra il y a quelques années, c'est ça ?
Alors oui, mais en fait on se connaissait déjà, Marie-Laure et moi. Nous sommes rencontrés dans le cadre de sa classe et nous avons voulu continuer l'aventure. Donc on a continué en faisant les classes supérieures de musique de chambre. Parallèlement, il se trouve que moi j'ai été lauréate en 2013 de la Fondation Xifra. Et Marie-Laure, je lui ai suggéré de se présenter parce que je pensais qu'elle avait toutes les raisons de devenir lauréate. Et donc elle s'est présentée et évidemment elle a été immédiatement reçue. Et donc c'est en 2014 toi que tu as été... Voilà.
Tout à fait.
Tu peux décrire aux auditeurs comment il se passe ce concours ? Ça dure 20 minutes, c'est ça ? Et vous avez un répertoire précis à faire ?
Ce concours a la particularité d'être ouvert à toutes les disciplines. Donc effectivement, le but du jeu, c'est de montrer qui on est avec un répertoire qui nous met en valeur le plus que possible. Le jury, qui est d'ailleurs composé de plusieurs pointures, que des lauréats effectivement de la Fondation Xifra, qui font de très belles carrières, et donc du coup se réunissent pour choisir les candidats qui les auront le plus séduits.
Soir, les auditeurs qui seront dans la chapelle vont avoir la chance d'écouter quoi précisément ?
On a fait un programme en deux parties. La consigne qu'on avait, c'est des morceaux du grand répertoire. Donc ça sous-entend souvent des tubes, plus ou moins de la musique classique. Donc la première partie, ils voulaient à la fois de l'opéra, de la musique de chambre et du piano solo. La première partie donc, commence avec la quatrième ballade de Chopin pour piano seul, qui est un des morceaux les plus célèbres du répertoire et... aussi un morceau de bravoure techniquement. Ensuite, on a des morceaux de musique de chambre, donc c'est-à-dire vraiment écrits pour le piano et la voix. Donc des leaders de Brahms et de Schubert et des mélodies de Reinaldo Hahn.
Et donc évidemment, la deuxième partie, c'est l'opéra, avec des grands airs du répertoire, allant de La Comtesse dans Les Noces de Figaro à Mimi dans La Bohème de Puccini, Roussalka de Dvorak, La Habanera de Carmen de Bizet.
J'ai aussi voulu faire un petit clin d'œil dans la deuxième partie parce que Xifra était un pianiste très connu parce qu'il était un merveilleux pianiste, mais aussi très connu parce qu'il faisait lui-même beaucoup de transcriptions. Et on démarre cette deuxième partie avec une transcription d'ouverture d'opéra que j'ai faite moi-même. Et il s'agit de l'opéra qui s'appelle Candide de Leonard Bernstein, qui est très joyeux, il met l'ambiance.
Un petit mot sur le nom de votre duo ? Pourquoi Nitessence ?
Nitessence, c'est le fait de briller. Célia est quelqu'un de très solaire, elle est très enthousiaste, comme elle l'a dit dans sa présentation. J'avoue que quand je suis en très grande forme, je peux l'être également. Et je trouvais que ça nous représentait assez bien. Nous sommes d'une nature assez généreuse, on aime partager avec le public. On pense toujours à la présentation de nos œuvres quand on fait des concerts. De façon générale, on a envie de donner du plaisir aux gens, donc la lumière, c'est quelque chose qui porte énormément.
« Voilà, c'était Yann. J'étais donc à Senlis, précisément à la chapelle Saint-Frambourg, pour le week-end d'ouverture organisé par la Fondation Cifra. A très vite sur l'antenne d'RVM. Au revoir.
C'était L'Oreille dans le coin.